Radio Django. Vivre à Lausanne.
Bonsoir Émilie.
Bonsoir.
Ce soir, nous abordons un sujet chaud, voire très chaud, depuis plusieurs années. Un sujet qui sera d'ailleurs soumis aux votations fédérales le 27 novembre prochain. En effet, il s'agit du nucléaire. Et oui, la fission des atomes donnant des sueurs chaudes et froides à pas mal de monde, surtout depuis les catastrophes de Tchernobyl en 1986 et celle de Fukushima il y a 5 ans. La sortie programmée de la Suisse de cette source d'énergie ô combien controversée a fait couler passablement d'encre et agité pas mal de langues. Nous allons en parler à notre tour ce soir, à relever que la votation qui va avoir lieu fait suite à une initiative lancée par les Verts en 2011 déjà.
Alors oui, comme les votations approchent, comme tu l'as mentionné, nous allons parler de cette initiative qui émane des Verts et qui porte le nom exact de « Initiative sortie programmée du nucléaire » et qui a été traitée rapidement par le Conseil fédéral et le Parlement une fois lancée. Ce qui irrite, pour ne pas dire fâche, les Verts actuellement, c'est que le Parlement s'engage certes à inscrire au niveau légal l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires à l'avenir, mais qu'il n'a aucunement l'intention de stopper celles qui fonctionnent, bien qu'il soit avancé par les partisans de cette initiative que ce sont elles-mêmes qui représentent un réel danger pour l'environnement, population compris, bien entendu.
Oui, je vois. Ces chantiers qui touchent à l'environnement et à sa préservation sont toujours, me semble-t-il, traversés par des avis très contradictoires et s'exprimant sur la scène publique de manière souvent très virulente. En quoi cette initiative trouve-t-elle à s'inscrire au niveau contextuel, d'ailleurs ?
Alors, bonne question, Fabien. Alors, cette initiative trouve à s'inscrire dans le cadre de la stratégie énergétique 2050, qui a été adoptée par le Conseil fédéral, donc suite à la catastrophe de Fukushima en 2011, comme tu l'as rappelé, et qui vise à encourager, notamment financièrement, ce qui n'est pas rien, ce qui est entrepris au niveau des énergies renouvelables que sont le solaire, l'éolien, la force hydraulique, la géothermie et la biomasse, ainsi que des subventions pour assainir énergétiquement les bâtiments. Il faut encore mentionner que le Parlement a accepté, le 30 septembre de cette année, une première série de mesures qui vise à accroître l'efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables. Cependant, cette initiative souligne, ce qui n'est pas le cas de cette stratégie, c'est ça qu'il faut bien comprendre, que les centrales nucléaires doivent avoir une certaine durée de vie au-delà de laquelle il est mauvais de s'aventurer pour des questions de sécurité. Donc en fait, si l'initiative passait, il faut préciser qu'on ne stopperait pas les centrales d'un jour à l'autre. Effectivement, il y a un plan d'arrêt progressif qui court jusqu'à 2029 et qui permettrait aux cantons et aux communes d'investir dans d'autres sources énergétiques en ce qui concerne la politique électrique suisse. Ainsi, la Suisse pourrait développer son parc d'énergie renouvelable, mais aussi apprendre, si j'ose dire, à faire des économies d'énergie, ce qui semble indispensable à l'heure actuelle, mais ce qui appelle aussi à une évolution des mentalités, et ça, comme tu le sais, ça ne se fait jamais sans douleur.
Ouais, effectivement, c'est un changement sociétal qui est proposé et qui aura des retombées sans doute larges si l'initiative venait à passer le 27 novembre prochain. Mais quel est l'argument majeur avancé par les Verts pour que cette initiative qui ne prêche pas que des convaincus, me semble-t-il ?
Alors, l'argument principal, c'est vraiment la sécurité des personnes et des lieux. Il est important de dire que la Suisse est le pays, et ça, ça paraît incroyable, qui possède le plus vieux parc nucléaire du monde, ainsi que le plus vieux réacteur encore en service. Donc, il s'appelle Bessnau et qui est bien connu des auditeurs, car ce nom passe fréquemment sur les ondes des radios nationales tant il est sujet à controverse. Il faut savoir que ce réacteur, qui est exploité depuis 47 ans maintenant, est jugé très dangereux par les experts du fait que l'équipement surexploité est vieillissant et que ce qu'on appelle sobrement, par exemple, la cuve de pression de ce même réacteur ne peut être changée, et que le risque d'accident nucléaire dans notre pays est majeur, sans vouloir vous faire peur.
Oui, ben voilà, c'est juste quelques mots. Bon, je pense que nous avons tout intérêt à écouter ce que les Verts ont à nous dire, même si tout le monde ne partage pas leur avis ou leur jugement alarmiste à ce sujet. Pour entrer davantage en matière, nous accueillons ce soir Benjamin Ruda. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant en sciences de l'environnement à l'Université de Lausanne, membre du comité des Verts lausannois et responsable pour cette initiative de la sortie programmée du nucléaire. Alors, Benjamin Ruda, faut-il être étudiant en sciences de l'environnement pour faire partie des Verts lausannois ?
Absolument pas. Notre parti est composé de beaucoup de membres très différents et dont chacun apporte un peu ses connaissances et ses marottes. Il y a des gens qui adorent l'agriculture urbaine, donc ils apportent plutôt ça. Il y en a qui adorent les transports, des fanas de vélo, des fanas de bus et de tram. Il y a des gens qui s'intéressent aussi à la mendicité. Je pense que c'est un sujet peut-être que vous allez aborder dans les prochains temps. Il y aura un autre référendum, cette fois cantonal, là-dessus. Tout plein de sujets. Donc le parti s'intéresse à tous les aspects de la vie quotidienne des citoyens.
Eh ben, présentez-nous un petit peu, comme on a la chance de vous avoir ce soir, Benjamin, de manière claire et succincte, si possible, les grandes lignes de cette initiative donc de sortie programmée du nucléaire. Et puis, afin que ceux qui nous écoutent puissent se faire une idée claire, parce que c'est quand même assez dense comme sujet.
Alors, le sujet lui-même est complexe, tout comme l'énergie elle-même est complexe. Donc, en théorie, il faudrait tous avoir une thèse en physique nucléaire pour pouvoir comprendre les aspects fins de la thématique. L'initiative elle-même, elle est toute simple. Elle a deux articles. Le premier, il dit simplement que l'exploitation des centrales nucléaires est interdite en Suisse. Donc ça, c'est tout basique. On ne va pas en construire des nouvelles. Ça, c'est plus ou moins décidé, mais là, ce sera inscrit dans la Constitution. Et deuxièmement, la législation, donc la loi d'application de cet article, se basera sur d'autres articles qui existent déjà, donc notamment sur l'usage des énergies renouvelables et la transition énergétique. Donc on dit simplement, on veut plus de nucléaire, et pour le remplacer, on va se baser sur d'autres énergies.
Mais alors, est-ce que vous avez privilégié concrètement les énergies renouvelables ?
Alors oui, parce qu'elles sont déjà mentionnées dans la Constitution. C'est un peu comme quand vous arrêtez de fumer et vous laissez votre paquet de cigarettes sur la table du salon en permanence en vous disant que vous allez sortir de la cigarette, mais on leur laisse le paquet là au cas où. La stratégie qui a été finalisée au Parlement, qui a quand même une majorité de droite, à la base devait contenir la sortie définitive du nucléaire et surtout planifiée, et finalement ils sont revenus en arrière, ils ont laissé la durée de vie d'exploitation ouverte. La seule norme qu'ils ont mise, c'est en cas de... Sauf s'il y a un gros accident, en gros.
Mmh. Ce sera un petit peu trop tard.
Voilà, c'est un peu comme si on attendait, ouais. Et puis ensuite on dit « Oups, zut, on a un accident nucléaire ». Le problème, c'est qu'en Suisse, on a un tout petit pays, avec la population qui est concentrée dans des centres urbains. Si on prend la région lémanique ou la région zurichoise, il suffirait qu'il y ait un accident dans une des centrales argoviennes, par exemple, qu'on doive évacuer de Zurich. C'est 1,5 million de personnes, voire 2,5 millions si le nuage est trop grand. Demander l'asile dans un pays d'Europe, vous imaginez que les dernières votations qu'on a
faites. À l'heure actuelle, ça passerait bien.
Voilà, ce serait assez cocasse, et je ne pense pas que nos voisins seraient très contents non plus des radiations qui parviendraient chez eux.
Mais alors, sans vouloir faire l'avocat du diable, on a un petit pays, vous venez de le dire, mais si une centrale nucléaire en France voisine ou en Allemagne tout proche devait avoir une fuite...
Tout à fait. Alors, il y a des actions en justice qui sont en cours de la part de la ville de Bâle et de la ville de Genève, notamment pour deux centrales respectives qui sont tout près et qui sont quasiment aussi vieilles que les nôtres. Donc, on essaye de faire quelque chose là-dessus, mais on ne peut pas faire grand-chose vu que ce n'est pas sur notre territoire. Donc cette initiative, elle essaye déjà de régler le problème chez nous pour qu'on puisse peut-être après plus facilement faire la morale à nos voisins. Les Français sont mal barrés de ce côté-là vu qu'ils ont vraiment massivement misé sur cette énergie.
Ouais.
Le dernier point juste pour l'initiative, donc il y a des dispositions transitoires, vous l'avez dit, c'est une sortie programmée. Donc on ne veut pas arrêter de fumer du jour au lendemain voilà, avec tous les effets que ça a. L'article dit simplement que les centrales doivent être exploitées pendant 45 ans maximum, ou si elles ont un problème qui nécessite de les fermer plus tôt. Et cet article-là implique que 4 réacteurs devraient fermer relativement vite, c'est-à-dire l'année prochaine, puisqu'ils ont déjà au-dessus de 45 ans, où ils atteindraient 45 ans en 2017.
Et justement, alors, vous pouvez nous donner quelques chiffres au sujet du parc nucléaire en Suisse, combien de centrales existent, depuis combien de temps sont-elles exploitées, et puis quelle est la consommation moyenne d'électricité en Suisse, pour qu'on ait comme ça une image ?
Alors, pour le parc nucléaire, on a 4 centrales qui ont 5 réacteurs. Il y a une centrale, Betznau, qui a 2 réacteurs. C'est des centrales plus ou moins grandes, de grande puissance. Donc les Mühleberg et les deux Betznau ont des petits réacteurs, donc c'est à peu près 300 mégawatts. Pour juste donner un ordre de grandeur, un mégawatt, ça permet de faire fonctionner 1000 feux nacheveux en même temps, juste pour vous imaginer ça.
Oui.
Donc c'est quand même des grosses puissances. Et puis la dernière qui a été construite, donc Leibstadt, qui a été construite en 84, elle est, elle, d'une puissance très grande, de 1100 mégawatts. Donc là, c'est vraiment des grosses centrales. Dans une année normale, elles produisent à peu près 40% de l'électricité qu'on consomme en Suisse, le reste étant de l'hydroélectrique et puis des autres petites sources ponctuelles comme Tridel à Lausanne, par exemple, ou du solaire et de l'éolien.
Actuellement, l'éolien représente quelques pourcents ?
Alors, c'est moins d'un pourcent, ça fait erreur. Parce que, alors justement, c'est un peu le but, c'est de un peu changer cet état de fait. J'ai parlé d'année normale, parce qu'actuellement, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, Leibstadt et Betznau sont à l'arrêt. Mm-hmm. Donc, il y a à peu près 40% de la production nucléaire qui est à l'arrêt éteinte, qui a dû être éteinte de façon précipitée, parce qu'ils ont remarqué des anomalies dans le réacteur. Et c'est typiquement ce qu'on attend d'une centrale vieille. C'est comme avoir une vieille voiture, d'un coup vous avez le carburateur qui pète, vous devez aller au garage, etc.
Et la Suisse fonctionne quand même, j'allais dire.
Alors, aucune lumière ne s'est éteinte. On a la chance d'être un pays entouré d'autres pays, avec des câbles qui passent entre deux. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut acheter du courant à l'Allemagne, à la France, à l'Italie ou à l'Autriche. Et d'ailleurs, ces pays nous utilisent pour leur transfert d'énergie au niveau de l'Europe. Donc, on est très bien connecté avec nos voisins. Et ça permet de compenser temporairement ou de façon plus durable si on a une perte de production ou qu'on décide d'arrêter les centrales.
Et puis Benjamin, vous nous parliez de toutes les énergies renouvelables qu'on va mettre en avant ces prochaines années si l'initiative passe. Mais est-ce que c'est faisable ? Est-ce que la Suisse recèle ce dont les habitants ont besoin pour subsister à ce niveau ? Enfin, j'imagine, est-ce que la Suisse peut tourner à l'éolien ou comment on imagine ça ?
Alors, le fait est, c'est qu'on a déjà 60% d'électricité qui est considérée comme renouvelable. C'est l'hydraulique, c'est des barrages dans les Alpes, c'est des barrages sur les rivières qui, elles, produisent du courant alors sans CO2 de façon extrêmement durable. C'est des infrastructures qui sont amorties, donc aussi le courant peut être produit à un coût très raisonnable. Et puis ensuite, la Suisse manque d'une seule ressource, c'est la volonté politique. On a suffisamment de soleil, on a suffisamment de vent et de ressources comme le bois ou la méthanisation des matières organiques pour pouvoir faire un panel d'énergie de remplacement. Et puis la dernière ressource dont on a, qu'on a en avantage, c'est les négawatts. C'est un terme qui précise les ressources qu'on pourrait économiser. Vous avez parlé des économies d'énergie. Donc chaque watt qu'on ne consomme pas vient améliorer le bilan. Donc on baisse notre consommation, ce qui est du coup rend la sortie du nucléaire ou le renouvelable plus supportable par rapport à la grille de production, à la grille de consommation.
Et alors là, vous parlez carrément de changement de mentalité, mais comment vous vous y prenez pour, on va le dire gentiment, faire évoluer les mentalités ? Quels sont vos moyens quotidiens ? Parce que là, c'est une transition quand même majeure que vous proposez.
Alors, c'est une transition majeure, oui et non, dans le sens, comme vous l'avez dit déjà, on est entre guillemets à moitié sorti déjà du nucléaire depuis 2 mois parce qu'il y a ces centrales qui ne fonctionnent pas. Les habitudes n'ont pas changé, donc ça c'est pas forcément heureux. On pourrait dire qu'on pourrait essayer de changer en même temps. Il y a des habitudes de consommation, par exemple toutes bêtes. Dans une grille de production d'énergie renouvelable, le pic de production est à midi. Le soleil tape, pas aujourd'hui, mais le soleil sur l'Europe globalement tape le maximum à midi. Et donc, on a un pic de production à ce moment-là, ce qui fait que le courant est le moins cher à midi. Et je suis sûr que tous les auditeurs qui ont appris à faire la lessive, par exemple, savent qu'on lance sa lessive le soir parce que c'est là que le courant est moins cher, etc. Donc ça, c'est un paradigme qu'on doit complètement changer. On pourrait très bien imaginer dans une dizaine d'années, le pic de production à midi, tout le monde lance sa machine à laver, l'économie tourne à plein régime, donc on fonctionnerait en même temps que la production. Actuellement, le système, il est biaisé parce que la nuit, il y a des centrales nucléaires qu'on ne peut pas éteindre, qui restent allumées. C'est très cher de les éteindre et les rallumer. Donc on a du courant en surabondance, personne ne le veut. Donc il est très bon marché.
On fait quoi ? On le vend à l'étranger alors ?
Alors actuellement, il est vendu... celui des centrales suisses sert à alimenter la Suisse et on compense encore avec des centrales nucléaires françaises.
Donc pour notre besoin.
Exactement. Et c'est utilisé pour l'instant pour faire de l'argent. Il y a des barragistes suisses, donc des propriétaires de barrages, qui pompent de l'eau la nuit, très bon marché, qui remplissent leurs barrages et la journée, ils essayent de le vendre au prix le plus haut possible, ce qui est devenu très difficile récemment, justement, parce qu'à midi, le prix est maintenant très bas. Il est plus bas que la nuit. Il y a même des périodes où l'Allemagne produit tellement de solaire et tellement d'éolien que le prix devient négatif. C'est-à-dire que les vendeurs d'électricité doivent payer des gens pour la consommer.
Donc on fonctionne en sur-régime, en fait.
Alors, il y a une surcapacité de production en Europe, ce qui a beaucoup contrarié les plans de beaucoup d'investisseurs et de spéculateurs qui voulaient, par exemple, construire beaucoup de centrales à gaz pour favoriser la transition énergétique. Et ce qui se passe, c'est que la transition énergétique se passe de cette énergie de transition. Si on regarde les productions en Allemagne, ils consomment moins de charbon et moins de gaz qu'avant la sortie du nucléaire. Donc, ça commence à... Certains préjugés qu'on a sur l'Allemagne, par exemple, sont tout à fait faux. Ils sont colportés par les opposants parce qu'ils veulent faire peur à la population en disant on va importer de l'énergie au charbon. De un, c'est faux. Et de deux, c'est quelque chose qui est extrêmement temporaire. Et ça part du principe, les Allemands avaient déjà du charbon avant. Ils en ont encore maintenant, mais de moins en moins.
Benjamin Rudat, si on vous écoute là ce soir, on se dit finalement pourquoi est-ce qu'on a encore des centrales nucléaires et pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore sorti ?
Alors, pour moi qui suis encore relativement convaincu, c'est une aberration totale. Il y a des lobbies qui sont actifs, notamment le lobby des grands électriciens, qui veulent absolument tirer absolument tout le jus qu'ils peuvent des investissements qu'ils ont faits il y a maintenant 45 ans, 50 ans.
Sinon, ils perdraient de l'argent.
Alors, en théorie, ils perdraient de l'argent. Ils en perdent en fait déjà maintenant, parce que le courant n'est pas rentable. Le courant nucléaire est trop cher par rapport au prix du marché. Donc, chaque kilowattheure qu'ils vendent, ils perdent déjà de l'argent. Et les amortissements ont déjà été faits. S'ils devaient perdre de l'argent, c'est s'ils devaient rénover, faire des rénovations lourdes sur leur centrale, par exemple pour sécuriser ces cuves de pression qui sont quasiment insécurisables. Donc c'est des pièces qui sont tellement radioactives qu'on ne peut pas y accéder. Si vous avez un barrage, vous pouvez changer la turbine, vous pouvez arrêter l'eau, aller dedans. Tandis qu'une centrale nucléaire, vous ne pouvez pas y accéder. Donc c'est quelque chose qu'on découvrira lors du démantèlement.
Et alors justement, pendant ce démantèlement, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces centrales qui sont en Suisse ? On met un sarcophage ?
Alors, non, ce ne sera pas... Alors, à moins qu'il y en ait une qui pète et qu'on doive agir en urgence comme à Tchernobyl, donc c'est ce qui a été fait à Tchernobyl, il n'y avait pas d'autre solution. Mais le plan, c'est de les démanteler, donc les démonter petit à petit, et puis de stocker donc, les déchets nucléaires, donc les barres de combustible, les éléments les plus radioactifs, et puis les éléments en béton et en acier qui sont autour, qui sont aussi, ils ont été bombardés pendant 45 ans, donc je vous laisse imaginer le niveau de radiation. Et malgré les promesses au début de l'énergie nucléaire, où on disait, on pourra faire plein de trucs avec les déchets nucléaires, on pourra les réutiliser, on pourra les refondre, etc. Après 60 ans de recherche, le meilleur truc qu'on a trouvé, c'est de faire un trou et de les mettre dedans.
Ben, c'est bien.
Alors, c'est un peu comme un chat, on fait un trou, on enterre et on regarde plus ce qu'il y a derrière. C'est pas très sympa parce que c'est des déchets qui restent actifs pendant des milliers d'années.
Voilà, c'est pour les prochaines générations.
Voilà, alors,
on refait la patate chaude.
Si vous aimez passer chez le notaire et avoir des mauvaises surprises, ben voilà, nos descendants et nos descendants de descendants vont avoir des belles surprises. Si jamais on oublie qu'ils sont enterrés là, donc il y a toute une thématique sur comment faire des signes qui sont compréhensibles dans toutes les langues et dans tous les schémas de pensée, parce qu'on va devoir dire à toutes les générations futures pendant 1000 ans, donc c'est comme si le médiéval nous disait « attendez, creusez pas là ». Que ici c'est dangereux.
Donc ne faites pas d'enfants.
Alors non, on reste de toute façon optimiste. Vu qu'on peut sortir du nucléaire, on aura de toute façon ces déchets à faire, à gérer. Le but c'est d'en produire pendant le moins de temps possible pour qu'on ait le volume le plus petit à gérer et à transmettre à nos générations futures.
Benjamin Ruda, un pronostic pour le 27 novembre ?
Alors j'attends un oui retentissant, notamment de la Suisse romande. Nous n'avons pas de centrale nucléaire, mais nous serions largement concernés par un accident. Vous savez qu'il y a du vent qui circule sur le plateau.
Il y a la bise des fois.
Exemple, voilà. On a échappé au pire. Il y a eu une catastrophe nucléaire en Suisse romande, quand même, la catastrophe de Lussan.
De Lussan.
Dans les années 60, où il y a un réacteur expérimental tout petit, heureusement, mais qui a fondu dans une caverne, donc dans la molasse broyarde. Et on aurait pu avoir une centrale nucléaire à Verbois, à 10 km du centre de Genève, qui, heureusement, via une mobilisation populaire, n'a pas été construite. Donc on l'a échappé belle jusque-là, et le but c'est de pas de prendre des risques, on va pas jouer au dé avec l'avenir du pays, et donc si on peut sortir, on en sort du nucléaire et on les ferme avant que ça nous pète au visage.
Et ben voilà, effectivement, votre voix sera demandée dans les urnes pour les prochaines votations fédérales, ce sera le 27 novembre prochain. Merci beaucoup Benjamin Ruda.
Merci à vous.
D'être venu nous parler. Je rappelle que vous êtes responsable de la campagne des Verts lausannois pour cette initiative de sortie programmée du nucléaire, et puis rappelez votre site où on peut retrouver toutes les informations, www.sortie-programmée-nucléaire.ch. Ces liens et d'autres pour se renseigner sont mis en ligne sur notre site www.django.fm. Et merci à Émilie pour la préparation de ce sujet actu politique.
Merci.